Vous écoutez France Culture, tout de suite, rue des Écoles, Louise Touret.
Bonjour à tous, bienvenue dans Rue des Écoles. Aujourd'hui, le travail et ses représentations à l'école. Un cas pratique, le stage de 3e. Vous savez, cette semaine pour apprendre à connaître le monde du travail, un dispositif qui concentre bien des contradictions. L'accès aux professionnels dépend trop souvent des relations des familles. Les enseignants ont du mal à valoriser cette expérience. Enfin, le salariat subit de profondes mutations. Sont-elles prises en compte à l'école? Nous en parlons avec nos invités. Et puis c'est à noter, le sujet résonne avec une actualité brûlante, la contestation de la réforme du Code du travail qui mobilise aujourd'hui des étudiants. Et cela, nous l'évoquerons dans la rubrique Actualité avec Sarah Masson, journaliste à l'étudiant, partenaire de cette rubrique. Bienvenue dans Rue des Écoles, Sarah.
Merci Louise, bonjour.
Vous aborderez cette mobilisation contre ce texte qui réforme le Code du travail et aussi...
Mais aussi les agrégés mécontents et éventuellement l'écriture cursive
qui va peut-être se voir supprimée, enfin pas encore en France. Vous l'avez entendu, nous succédons pour encore 3 semaines aux conférences de Carême diffusées par notre chaîne. L'émission est donc un peu plus courte que d'habitude, mais elle est toujours préparée avec Laurence Genepin et la collaboration cette semaine d'Anaïs Morales. Alexandra Malka est toujours à la réalisation et cette semaine c'est Pierrick Monsigny qui est à la technique.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
L'école doit-elle préparer au monde du travail? Vaste question. Toujours est-il que quand elle cherche à le faire, c'est compliqué et c'est perfectible. C'est ce qu'on voit quand on s'intéresse de près, comme nous allons le faire, au stage de 3e, un dispositif ancien, bien ancré dans les pratiques des collèges, mais qui peine à rencontrer le succès. Enfin, c'est ce que j'ai pensé. Benjamin Marteau, bonjour.
Bonjour.
Vous allez me dire si vous partagez mon opinion, peut-être pas. Vous êtes délégué général du Conseil national éducation économie, un conseil qui a été installé il y a presque 3 ans. Alors, que cherchez-vous à rapprocher? Est-ce l'école et le travail, l'école et l'entreprise, l'école et le monde économique?
Alors, bonjour. Le Conseil national éducation économie a pour mission de réconcilier 2 mondes que l'on a pour coutume de décrire comme étant antagonistes, le monde de l'éducation et le monde de l'économie. Le monde de l'économie au CN2E, c'est tant les employeurs que les salariés, c'est tant l'entreprise traditionnelle que l'économie sociale et solidaire. Et l'éducation, c'est l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Sur le stage de 3e, pour nous, c'est d'abord une grande avancée. C'est tout d'abord l'idée que l'école a pour mission d'ouvrir sur le monde, d'ouvrir sur une découverte du monde économique et professionnel. Et c'est déjà très bien que chaque élève, parce que ça touche tous les élèves de France, donc en ça c'est déjà un succès, même si on le verra tout à l'heure, il y a de fortes inégalités. C'est déjà très bien que chaque élève ait accès pendant une semaine à une ouverture sur un monde extérieur.
Dans ce conseil éducation-économie, il y a des représentants de l'entreprise, le MEDEF, on le sait, et c'est souvent Pierre Gattaz qui s'exprime sur la question, critique l'éloignement de l'école du monde de l'entreprise, disant qu'elle le méconnaît, mais qu'elle en offre une représentation tronquée. C'est aussi ça que vous cherchez à combattre?
Alors, ce que Pierre Ferracci, qui préside le Conseil national éducation économie, a l'habitude de dire, c'est qu'on a des représentations des deux côtés. On a des représentations du côté du monde de l'éducation, où on peut avoir une vision quelquefois exagérée du monde de l'entreprise. Et du côté de l'entreprise, on a aussi une vision un peu archaïque de ce qui se passe dans l'éducation aujourd'hui. Et la mission du CN2E, c'est que ces deux mondes se parlent, se découvrent, se connaissent, et on se rend compte, une fois qu'on s'éloigne des micros, qu'on s'éloigne des caméras, que les choses sont beaucoup plus apaisées et positives que ce que l'on dit parfois.
Bon, on va essayer d'être apaisé, positif, je ne sais pas, mais en tout cas, on va le faire au micro avec deux autres invités. Je vous accueille ensemble puisque vous représentez la même association. Virginie Salmen, bonjour.
Bonjour Louise.
Vous êtes journaliste, journaliste éducation, comme on dit, à Europe 1. Et avec Mélanie Taravant et Gaëlle Frilet qui est avec nous. Bonjour Gaëlle Frilet.
Bonjour.
Vous avez fondé l'association Viens voir mon taf. Gaëlle Frilet, vous êtes enseignante d'anglais en réseau d'éducation prioritaire.
Plus depuis la rentrée de septembre, mais je l'ai été pendant 8 ans. Oui.
Et pourquoi vous êtes-vous mobilisée sur cette question du stage de 3e ?
Personnellement, parce que j'en avais assez de voir mes élèves gâcher leur temps et leur capacité et leur énergie et leurs envies chaque année à la même période et qui revenaient déçus et moins heureux et moins optimistes pour leur avenir.
Ce qu'on entend souvent et ce qu'on entend dans les vidéos que vous proposez sur votre site, on mettra le lien sur le site de l'émission, c'est que les élèves sont un petit peu jeunes, ils sont perdus, ils ne savent pas comment chercher un stage.
Ils savent pas, pas plus que, oui, enfin, nous, on travaille, notre association, elle est consacrée, elle est dédiée aux élèves d'éducation prioritaire. Mmh. Alors, c'est un profil comme un autre, enfin, c'est un profil particulier, en tout cas. Il leur manque des codes, certainement. Ils ont plein d'autres qualités et bagages aussi. Ils sont très débrouillards. Et là, nous, on en a fait l'expérience depuis le début du lancement de l'association. En revanche, ils ont pas de réseau. Et c'est ça le gros problème pour eux. C'est pas qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils n'ont pas de réseau, ils n'ont pas cette chance-là. Tout simplement, si je peux vous dire qu'en REP, 2 élèves sur 3 viennent d'un milieu social défavorisé avec des parents chômeurs inactifs ou ouvriers. Donc ça limite forcément les chances de trouver un stage, de pas avoir de réseau.
Et Virginie Salmen, quel réseau vous mettez à disposition des élèves ?
Alors justement, c'est ce qu'on s'est dit au départ de l'association, c'est qu'on s'est dit, nous, on connaît tous plein de gens, on a des carnets d'adresses très fournis, on connaît des gens pas seulement dans notre milieu, hein, des gens qui font plein de métiers différents, qui seraient prêts sans doute, qui se sont dit à plein de moments, je ferais bien un truc, mais je sais pas comment m'y prendre. Donc nous, on propose une façon vraiment simple de le faire, c'est-à-dire qu'il suffit de poster une offre de stage pour 5 jours dans l'année sur notre site. On décrit en quelques champs, il y a 3-4 champs, ce qu'on propose à l'élève avec des termes de préférence assez simples, parce qu'ils sont effectivement jeunes, ils sont en 3e. Et donc on se dit, voilà, les gens qui savent pas très bien quoi faire, qui ont envie quand même de faire quelque chose, il suffit qu'ils postent une offre de stage sur viensvoirmontaf.fr et puis du coup ils peuvent accueillir aussi un peu d'air frais dans leur rangée de bureau.
Il est encore temps de le faire puisque les stages généralement c'est avant les vacances, donc il y a une petite session avant les vacances de février et il y en aura
encore. Il en reste en avril.
Voilà,
oui.
En avril. On vous retrouve dans un instant après les actualités de cette semaine, elle devrait vous intéresser. En partenariat avec le magazine L'Étudiant et avec Sarah Masson. Alors, fin des vacances parisiennes oblige. Le monde de l'éducation paraît relativement calme cette semaine et pourtant...
Et pourtant, la révolte gronde. On entend une voix qui s'élève, celle de la jeunesse. Les principales organisations de jeunesse préparent une grande manifestation, mercredi prochain, contre la réforme du Code du travail. C'est la mobilisation la plus importante depuis les manifestations contre le CPE, le contrat première embauche, il y a 10 ans. Les stagiaires y seront d'ailleurs représentés par le collectif Génération Précaire. Vous vous souvenez sûrement, très oui. Actif au moment des manifs contre le CPE. On ne veut pas de contrat de travail au rabais, disent-ils. Tout comme en 2005.
Les syndicats lycéens et étudiants, par la voix de l'UNEF notamment, résument le projet de réforme en 3 points. Travailler plus, gagner moins et se faire virer plus facilement. Évidemment, ça ne donne pas très envie. C'est une critique très radicale du projet de loi.
Alors, 2 mesures toucheraient particulièrement les jeunes actifs. L'allongement du temps de travail pour les apprentis de moins de 18 ans et le plafonnement des indemnités prud'homales en cas de licenciement abusif. Alors en clair, pour les salariés ayant moins de 5 ans d'ancienneté, le maximum d'indemnité ne pourra plus dépasser les 6 mois de salaire. Plus largement, c'est l'idée d'une précarité à vie qui inquiète les jeunes engagés contre ce texte. Les nouvelles générations ont toujours vécu avec la peur du chômage.
Oui, même les anciennes, hein, car le chômage de masse, on en parle au moins depuis les années 80.
Oui, mais là, désormais, c'est le monde du travail lui-même qui leur fait peur et c'est un vrai changement dans les mentalités. Plus de 50 000 personnes ont déjà annoncé qu'elles participeraient à l'événement du 9 mars sur Facebook. Et c'est d'ailleurs sur Internet que la protestation a grandi. Après la pétition, lancée par Caroline Dehas, Loi Travail Non Merci, qui a réuni presque 1 million de signataires, mais aussi par la voix des youtubeurs et le hashtag On vaut mieux que ça. Une dizaine d'entre eux sont réunis dans une vidéo sur YouTube qui appelle les jeunes à témoigner sur le monde du travail et sur ce qu'ils vivent au quotidien.
Les politiques ne nous donnent jamais la parole. Aujourd'hui, il est temps de la reprendre.
Que tu sois caissière, pion, maçon, cuistot, flic, prof en ZEP, chômeuse de longue durée, livreur de pizza, chauffeur de taxi, artiste en galère ou chercheur précarisé, tu vaux largement mieux que l'avenir qu'on te prépare. On va leur montrer nos vies et nos rêves. On va leur montrer qu'on n'est pas dupe des conséquences qu'ont sur nos vies à nous, les décisions qu'ils prennent. On va leur montrer qu'on vaut mieux que des petites décisions. On va leur montrer ensemble qu'on vaut mieux que ça.
Une voix donc, une jeunesse sans leader et sans porte-parole qui, en plus des luttes traditionnelles, s'associe aux anonymes. Le mouvement de cette jeunesse, dont François Hollande avait fait sa priorité, on le rappelle, sera suivi de près par l'exécutif. Entretien au JDD aujourd'hui, le Premier ministre Manuel Valls a déjà promis des améliorations sur les points de discorde.
Affaire à suivre. Et mercredi prochain, le 9 mars, c'est aussi le jour du concours de l'agrégation, 250 ans cette année, avec des agrégés qui, en 2016, s'interrogent sur leur envie de continuer à enseigner, notamment au collège.
Un agrégé sur deux songerait à démissionner, selon une enquête de la Société des agrégés. Il dénonce avant tout le manque d'ambition intellectuelle de l'enseignement secondaire. Une critique que l'on retrouve là aussi sur Internet à propos de la réforme du collège avec le hashtag Collège 2016. La fronde des profs prend sérieusement de l'ampleur. Par exemple, les enseignants de l'association Arrête ton char,
qu'on connaît bien à Rue des Écoles,
qu'on connaît bien, estiment que 40% des heures de langues anciennes pourraient disparaître des emplois du temps l'année prochaine. Antoine Desjardins, professeur des lettres, de lettres et membre du comité Orwell, publie une tribune dans le Figaro cette semaine et s'indigne contre, je cite, « ces grandes têtes molles de la pédagogie low cost, ces lauréates du concours Lépine de l'innovation absurde. Je ne ferai pas de grille de mots croisés citoyens sur les ABC de l'égalité », poursuit-il. « Je ne ferai pas de brainstorming, je ne finaliserai rien, je n'aurai pas d'objectif, on laisse cela à Auchan. Mes élèves n'auront pas d'iPad parce qu'ils n'en ont pas véritablement besoin. »
Là aussi, hein, c'est une vision du travail hein, sur laquelle se mobilisent certains agrégés. Gaëlle Frilet, vous êtes agrégée, alors que pensez-vous, vous, en tant qu'enseignante tribunes ?
Je suis agrégée et ravie et heureuse d'enseigner au lycée. Et si j'ai passé l'agrégation, c'était pour...
Et au collège ?
Vous
avez dit au lycée, attention.
Oh, le lapsus. Non, je suis agrégée et je ne suis pas au lycée par choix. Je suis très heureuse d'enseigner au collège. J'y suis bien. Et si j'ai passé l'agrég, c'était par amour de la discipline. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt et j'y trouve mon compte d'enseigner au collège. C'est pas moins bien, moins prestigieux comme mission que d'enseigner au lycée.
Bon, voilà, c'est une opinion aussi qui mérite d'être représentée. À propos du collège, les tablettes numériques, Sarah, vont bel et bien faire leur apparition dans les établissements. Le ministère de l'Éducation vient tout juste de valider 738, précisément, projets de collèges numériques.
Des collèges qui fourniront donc à la rentrée prochaine une tablette numérique ou un ordinateur portable à leurs élèves de 5e. Alors, ces dispositifs vont-ils révolutionner les méthodes d'enseignement ? Et oui, bien sûr, la question reste quand même posée, mais cela relance un débat particulièrement virulent autour de l'écriture numérique. En Finlande, à partir de 2016, l'enseignement de l'écriture cursive ne sera plus obligatoire. Pour le ministère de l'Éducation finlandais, l'apprentissage de cette écriture serait trop complexe et même inutile aujourd'hui. Cette façon d'écrire à la main, en lettres attachées, vous savez, la belle écriture de votre institutrice de CE1,
oui,
Louise,
de ma grand-mère,
voilà, sera progressivement remplacée par des cours de frappe au clavier. Pas de panique, les petits Finlandais continueront d'apprendre l'écriture à la main, mais en script, alors que l'écriture sur clavier, ainsi que l'écriture sur clavier. Donc à la main, en script et l'écriture sur clavier. Cette mesure a déjà été appliquée dans certains États des États-Unis l'année dernière. Alors, pour l'instant, personne n'a encore eu l'idée saugrenue de supprimer totalement le stylo. Des chercheurs ont montré que l'écriture à la main avait un rôle primordial dans le développement cérébral de l'enfant. Claire Bustaret, par exemple, chercheuse au CNRS, affirme que l'écriture à la main autorise une plus grande liberté graphique, à l'inverse du traitement de texte qui, selon elle, est un outil normatif et standardisé. Certaines études soulignent même que se servir de ses mains permettrait de développer la pensée abstraite.
Et d'autres chercheurs auraient démontré, il faut toujours prendre des pincettes avec les recherches, que prendre des notes à la main permet de mieux mémoriser ce qu'on entend. Enfin, une pensée abstraite, vous en parliez, qui se construit aussi à l'université. Faut-il ou non sélectionner les étudiants, surtout en Master 2 ? C'est une question qui se pose aujourd'hui.
Tout récemment, le Conseil d'État a déclaré que la sélection à l'entrée en Master 2 était illégale. Un sujet tabou aujourd'hui, alors que de fait, la sélection en Master existe, comme l'affirme la CPU, la Conférence des présidents d'université. Olivier Beau, professeur de droit à Paris 2, juge cette décision extrêmement grave dans une tribune publiée dans Libération jeudi dernier. Selon lui, le pays entier en souffrira en voyant disparaître les derniers bastions d'excellence à l'université. D'un côté, la CPU appelle le ministère à publier une liste liste des masters sélectifs, qui existent donc déjà, de fait. De l'autre, les syndicats étudiants refusent toute forme de sélection. L'accès au second cycle universitaire est-il un droit inaliénable? Le débat est loin d'être clos.
Loin d'être clos, d'ailleurs, nous en reparlerons dans Rue des Écoles. J'ajoute qu'on peut lire sur EducPro un entretien avec John Hennessy, président de l'université américaine Stanford, qui dit que, eh bien non, les enseignants ne disparaîtront pas avec le numérique et qu'on continuera sûrement à écrire avec un stylo. Merci beaucoup, Sarah Masson.
France Culture,
Rue des Écoles,
Louise Touré.
Allez, nous parlons du travail et de ses représentations à l'école. Connaître le monde du travail, c'est justement l'objectif du fameux stage de troisième par lequel tous les élèves sont censés passer durant leur scolarité obligatoire. À Radio France, c'est un sujet qu'on connaît bien. Et bien pourquoi? Parce qu'on accueille des dizaines de stagiaires. Je ne plaisante pas, des grappes entières d'élèves peuplent nos couloirs à chaque veille de vacances. Moi, j'ai eu la chance d'en rencontrer une collégienne très sympathique qui m'a raconté tout simplement son expérience à France Culture. Écoutez-la.
Je m'appelle Talia, j'ai 13 ans et demi, je suis en 3e au collège Henri IV. J'ai vu plein de choses différentes. J'étais surtout sur France Culture. J'ai vu des enregistrements, des directs, j'ai même vu des fictions aussi. J'ai vu des montages, j'ai vu des multicanal. Alors c'est déjà pas mal. J'ai aussi vu un petit peu France Inter, les directs de l'après-midi. Voilà. C'était super.
Je voudrais savoir si tous les élèves de ton collège font bien des stages et surtout si c'est toujours à la même période, avant les vacances, et ce qu'on vous demande après.
Oui, c'est toujours... En tout cas, pour notre collège, c'est toujours avant les vacances de février. Et après, on nous demande de faire un rapport de stage, en fait. Il faut qu'on explique ce qu'on a fait, ce qu'on a vu, décrire l'entreprise, décrire le genre de métier qu'on a suivi. Enfin, c'est très long à faire.
Mais c'est long comment?
Une quinzaine de pages. J'ai pas fini encore, mais... Alors, il s'agit en fait de résumer ce qu'on a vu, mais pas seulement ça. Il faut aussi expliquer le métier que l'on a suivi, décrire l'entreprise dans laquelle on était, et avec des photos, plein de choses du coup. Et ensuite, il y a plusieurs professeurs dans la classe qui suivent plusieurs élèves, et eux, ils sont responsables de ces élèves de leur stage, et donc c'est eux qui ont vérifié qu'on était bien en stage et qui nous notent aussi. Alors, il y a certains élèves qui ont les profs de sport et d'autres les profs de français.
Comment vous les trouvez, ces stages, pas seulement toi, mais aussi tes petits camarades, et quels sont les conseils qu'on vous donne dans ton établissement?
Ça marche beaucoup par le bouche à oreille, si on peut dire comme ça. Même les professeurs demandent à nos parents s'ils connaissent pas des gens qui travaillent pour certains élèves dans la classe. Enfin, c'est compte beaucoup sur les gens qui travaillent quelque part pour trouver un stage et moins sur les lettres de recommandation qu'on nous fait quand même écrire au début de l'année.
Quels sont les stages qui ont été effectués par tes camarades? Est-ce que tu as des exemples en tête, Talia?
Y en a qui travaillent dans les pâtisseries, chez Pierre Hermé. Ensuite, il y avait certains qui travaillaient justement chez un avocat ou chez un juge. D'autres dans des cabinets d'architectes, pardon. Chez des luthiers aussi, chez des...
Et quand on fait un stage de pâtisserie et qu'on vient d'un collège de la montagne Sainte-Geneviève à Paris, on va chez Pierre Hermé, prestigieux artisan parisien. Ça vous a fait rire, Gaëlle Frilé?
Ah oui, parce que moi j'en connais des élèves, mais ils vont pas chez Pierre Hermé, ils vont au kebab à côté du collège.
Alors c'est ce fameux stage kebab, c'est pas un mythe, on en parle tout le temps.
Non, mais c'est vrai, parce que les élèves qui n'ont pas de réseau, de bouche à oreille, de piston comme on pourrait dire, en fait, ils vont, c'est simple, ils sortent de chez eux, ils vont au collège, c'est le trajet qu'ils connaissent, en banlieue, il n'y a pas plein de trucs, et sur le chemin, il y a quelques commerces. Alors on va aller à l'épicerie, au kebab, au mieux, ceux qui présentent bien, ils osent pousser la porte de la pharmacie, et ceux qui n'ont rien trouvé, la mairie de la ville les prendra pour faire de la mise en pli. En gros, c'est ça, hein, mais vraiment.
Alors, vous allez écouter ce témoignage recueilli il y a un an dans Rue des Écoles. C'est Pascal Audin, il est aujourd'hui principal de collège à Paris. Il était enseignant à Aulnay, et voici comment il parlait du stage.
Du rôle dévolu aux professeurs principaux qui ne peuvent en fait concrètement s'occuper de ça que pendant les heures de vie de classe, qui sont en troisième aussi dédiées à la préparation du brevet et de l'orientation, et non pas uniquement de chercher le kebab du coin ou l'Intermarché de proximité, où bien évidemment il faut que les professeurs aillent pour bien vérifier qu'il ne s'agit pas de travail au noir, mais de stage en observation, et ça, pour avoir été aussi professeur principal à Aulnay, où effectivement il y avait des attitudes de la part de certains maîtres de stage ou d'entreprise qui étaient assez scandaleuses, et où il a fallu exfiltrer les élèves parce que c'était pas du tout ce qu'on attendait de ce stage en entreprise.
Non mais c'est tout à fait effrayant, Benjamin Marteau, ça existe encore, voilà, on a deux témoignages pour nous dire que les stages peuvent virer à une expérience complètement désagréable, inutile, une perte de temps et peut-être à la fin donner une très mauvaise image du travail et du monde des adultes.
Mais c'est une certitude qu'il y a beaucoup de travail à accomplir pour améliorer la situation de ce qui se passe concernant les stages de troisième. Je voudrais juste rebondir sur ce qui s'est dit sur le stage kebab. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions au sein du Conseil national d'éducation et économie, de beaucoup de préoccupations et de préoccupations qui sont partagées tant par les côtés entreprises, que ce soit les syndicats que par les syndicats enseignants qui sont dans le tour de table aussi. Il n'y a pas de bon et de mauvais terrain de stage en tant que tel. L'objectif du stage, quel est-il ? C'est de découvrir, c'est de s'ouvrir vers l'extérieur. Le seul stage qui peut être mauvais, c'est un stage qui ne vous ouvre pas vers l'extérieur, mais qui vous ramène vers votre quotidien, votre petit milieu, votre territoire, et qui ne vous permet pas d'aller voir au-delà.
C'est bien de cela dont on parle avec le kebab, parce qu'on n'a rien contre cette forme de nourriture à Rue des Écoles. C'est juste que si c'est le magasin en bas de chez soi, c'est particulièrement limité, peut-être.
Donc le stage kebab, du coup, c'est bien pour un fils de PDG, par exemple, ou pour quelqu'un de classe sociale plus élevée. Ça, c'est vraiment, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un intérêt à aller dans des endroits qu'on ne connaît pas quand on est d'un milieu aisé, aller dans un kebab, aller faire comme à l'époque on faisait peut-être, on vous envoyait peut-être vous, moi, faire se dire tiens, tu vas travailler un peu à la dure pendant un été dans un milieu qui est très différent du tien.
Ça, c'est la tradition des stages ouvriers de certaines grandes écoles, dont Polytechnique par exemple, qui envoyait ses élèves un peu plus âgés sur des lignes de montage, faire ouvrier spécialisé pendant quelques semaines.
Alors sur le stage de troisième, il s'agit évidemment pas de travailler à la dure, parce que stage de troisième,
c'est une
séquence d'observation.
Allez voir, voilà. Voilà.
C'est ça.
Allez
d'observation, c'est important de le rappeler pour pas qu'il y ait de confusion. Par contre, au niveau de ce qui s'est dit, ce qui s'est d'ailleurs écrit dans les recommandations qu'on a présentées en octobre au Conseil national d'éducation et économie, il faut mettre l'accent sur cette ouverture. Il n'y a pas de stage coté. Tout le monde n'est pas obligé d'aller à France Culture. Tout le monde n'est pas obligé d'aller dans une grande entreprise. L'important, c'est de découvrir. Et il faut d'ailleurs rassurer un certain nombre de familles, parce qu'il y a de l'angoisse aussi qui est générée autour de ce stage. C'est un moment d'ouverture. L'important, c'est de découvrir quelque chose qu'on ne connaissait pas avant.
Puisque vous en parliez, Virginie Salmen, et je crois que c'est aussi au départ votre idée, quand vous avez monté l'association Viens voir mon taf, il y a une idée de mélange social. La découverte, c'est aussi la découverte d'un autre monde social pour casser des représentations et puis favoriser la mixité. Virginie, Gaëlle ?
Oui, absolument, c'est ça. Et en fait, l'idée de Viens voir mon taf, c'est vraiment une rencontre de deux individualités. Ce qui est très important dans ce que vous dites, c'est effectivement de découvrir, mais de découvrir en étant bien accompagné. C'est-à-dire quand quelqu'un a vraiment envie de vous recevoir, a vraiment envie de vous montrer les couloirs, son métier, sa passion, ce que ça implique, tout ça, et de vous donner une vision positive du travail, de son métier, ce qu'il a fait avant, parce qu'aussi, on en parlait avec Gaëlle beaucoup de ses élèves de 3e, de REP et de REP+, qui, sans réfléchir, aux deux tiers se disent je vais aller en seconde pro. Et alors quand on leur demande nous mais pourquoi tu vas en seconde pro, tu veux faire quoi, tu as un projet vraiment défini, non mais on m'a dit qu'il fallait aller en seconde pro, en gros, enfin ils se posent même pas la question d'aller en seconde générale. Et du coup quand ils vont par exemple dans les stages avec les amis journalistes et pas que,
alors donnez-nous des exemples.
Alors un exemple, tout simplement un reporter d'Europe 1 qui a accueilli un stagiaire et il lui a dit, il s'est rendu compte au bout de quelques jours qu'il adorait ce métier, que tout ce qu'il l'emmenait voir, faire les reportages, même au coin de rue, il adorait ça. Et il lui a dit, alors qu'est-ce que tu fais l'année prochaine, toi ? Bah, une seconde pro. Et il lui a dit, mais tu sais que moi, j'ai fait une école de journalisme, j'ai fait une licence d'abord, et il ne faut pas faire une seconde pro pour ça, il faut faire une seconde générale. Et le gamin n'avait jamais pensé qu'il pouvait aller jusqu'au bac et puis poursuivre ses études. Et du coup, il s'est dit, ah oui, mais si, en fait, je veux vraiment faire ça. je veux faire du coup... Enfin, je veux presser mes profs de me laisser aller en seconde pro. Et puis, son père s'en est mêlé. Il a ensuite, le journaliste qui l'a recueilli a commencé à déjeuner régulièrement avec son père. Il y a vraiment une relation qui s'est instaurée. Et je pense que le gamin est effectivement sur cette voie parce qu'il a levé l'autocensure, tout simplement.
Donc, c'est un vrai engagement de la part des professionnels qui accueillent les stagiaires. Gaëlle Frillet, ces représentations du travail des élèves et même de la suite de leur carrière scolaire, elles sont dans les zones d'éducation prioritaire et les quartiers populaires assez décalés de celles même des enseignants.
Ouais, décalé, un peu stéréotypé. Le travail pour eux, pour les élèves, en tout cas en troisième, c'est le monde des adultes. C'est un monde donc différent qui est pas forcément bienveillant. Parce que l'ensemble des professeurs n'est pas toujours bienveillant. Les parents sont angoissés pour l'avenir de leurs enfants. Donc c'est quelque chose qui fait peur. Dès le mois de septembre, aux élèves de 3e, on leur met la pression sur « il faut trouver ce stage le plus vite possible », etc. Et à aucun moment, effectivement, on leur dit « mais qu'est-ce que tu aurais envie de découvrir ? Quels sont les métiers qui te font rêver ?» etc. Ils n'ont pas d'idée de métier parce qu'ils ne connaissent pas de métier, parce que le conseiller d'orientation, c'est une mission très compliquée avec énormément d'élèves à gérer. Et ils travaillent essentiellement sur l'orientation post-3e et pas plus loin. Et je vais en profiter pour rebondir parce que quand on parle du stage de 3e, c'est pas accessoire, c'est pas une semaine, 5 jours comme ça. C'est vraiment une première expérience hyper importante. Et quand vous parliez de faire tomber des barrières, nous, en tout cas avec Viens voir mon taf, on parlait d'une rencontre humaine et que c'était l'occasion pour des gens de générations différentes, de milieux sociaux différents, de espaces géographiques différents, de se rencontrer. Et c'était, pour le coup, je pense, bénéfique aux deux parties, aussi bien aux jeunes qu'aux professionnels, et on s'en rend compte.
Sur France Culture, Indra Rios-Moore reprend le Money de Dire Street. Nous, on ne parle pas d'argent, quoique. Nous parlons de travail dans Rue des Écoles aujourd'hui et plus précisément du stage de 3e, un stage d'observation qui sert à mieux connaître le monde du travail, à casser peut-être, nous l'avons dit, certaines représentations de celui-ci. Mais ce monde du travail, eh bien justement, il est en débat en ce moment. Car avec cette loi dont nous avons parlé dans la page d'actualité de Sarah Masson, la loi El Khomri qui va reconstruire le code du travail, loi fort contestée, eh bien les débats fleurissent. Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Ce soir ou jamais. Hier donc, c'est Alain Deneau, philosophe québécois, vous allez l'entendre à son accent, qui parlait de l'organisation du travail aujourd'hui.
On est à des années-lumière de faire du travail un bien commun,
oui.
De faire du travail un objet démocratique, plutôt que d'abandonner le travail à ceux qui prétendent le créer, c'est sous la forme d'emploi. Le travail, qu'est-ce que c'est, d'un point de vue social? C'est penser la rencontre entre des dispositions, des compétences, des volontés, d'une part, et d'autre part, des besoins. Mais on n'en est pas là du tout. On en est à dire à des gens, voilà, vous allez vous conformer à une entreprise qui a pour visée surtout quand il s'agit d'une multinationale, pour viser de satisfaire des actionnaires, avec des stratégies très dures. Et on se trouve à faire n'importe quoi, à faire des tâches tout à fait absurdes. Vous avez un ingénieur qui va confectionner un matériau qui est destiné à se briser, parce qu'on est dans l'ère de l'obsolescence et de la défaillance programmée. Vous avez des designers qui vont imaginer une façon d'installer un bain tourbillon dans un jet pour un oligarque qui a les moyens de se le payer. Vous allez avoir des pharmacologues qui vont concevoir des médicaments pour des malades imaginaires qui ont un pouvoir d'achat, tandis que des indigents qui sont vraiment dans le besoin, eux, n'y auront pas droit. Et donc, on est face à un monde qui nous condamne à la médiocrité. C'est-à-dire à une absence de réflexion sur le sens même de ce qu'on fait.
Benjamin Marteau, donc après cet extrait de Ce soir ou jamais diffusé vendredi soir sur France 2, est-ce à l'école, tout simplement, de louer le travail, de chanter les louanges du monde professionnel dans lequel les gens ne sont pas toujours heureux et les tâches à accomplir ne sont pas toujours idéales?
C'est à l'école d'apprendre à former, de préparer également au monde que va rencontrer l'élève. L'école a plusieurs missions. Elle n'en a pas qu'une et c'est dans la conciliation de ces missions qu'il faut avancer. Par rapport à ce que disait l'intervenant Alain Deneau, une chose m'est venue en tête et rejoint un certain nombre des préoccupations qu'on a portées au niveau du CN2E. On travaille sur la mise en place de mini-coopératives, de projets de mini-coopératives, de mini-associations dans un cadre scolaire, en collège, en lycée, avec les grands acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que, effectivement, le travail évolue. Le travail, également, n'est pas uniquement au sein des entreprises classico-classiques. On veut aussi, et c'est une des missions de l'éducation nationale, développer la découverte de ce type
Par exemple,
on travaille avec un établissement, avec un établissement Vitry-sur-Seine, pour arriver à mettre en place une mini coopérative d'élèves qui développent des ruches, qui installent des ruches sur le toit d'un collège, qui ensuite pourra concevoir ce qu'ils souhaitent faire du miel. Est-ce qu'ils souhaitent l'avoir dans le cadre d'un circuit court à la cantine? Est-ce qu'ils souhaitent le vendre pour ensuite à quel prix? Quelle est l'organisation? Quel apiculteur vont-ils contacter en responsabilité? Toutes ces dimensions-là de projet collectif, c'est apprendre à travailler ensemble, travailler au sens noble. Plus le travail d'ailleurs que l'emploi en tant que tel, si on fait référence à des distinguos qui reviennent souvent en ce moment et qui interpellent tout le monde, le monde de l'économie comme le monde de l'éducation. Ces questions, elles traversent tous les chantiers, les groupes de travail qu'on peut avoir au sein d'Éducation nationale.
Et elle traverse la société. On oppose classiquement le travail et l'école, le monde de l'entreprise et celui du savoir dans toute sa noblesse. On le voit, je le vois, moi, à certaines réactions d'enseignants. On peut aussi proposer du travail une vision peut-être un peu moins triste ou un peu moins desséchée que celle qui est parfois proposée aux élèves en fin de troisième. Par exemple, au moment de s'orienter ou après le bac, une vision pas forcément utilitariste. Travailler, ça peut aussi être un plaisir. Et moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai lu votre plaquette, Virginie Salmen, celle de Viens voir mon taf. C'est des professionnels qui semblaient heureux au travail. Ça paraît presque subversif aujourd'hui.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est sur quoi on travaille dans le moteur de recherche sur le site pour essayer d'attirer les élèves par un domaine qui les intéresse, une passion, leur dire, alors si tu ne connais pas d'autres métiers que les métiers classiques, boulanger, pompier, etc., qu'est-ce qui t'intéresse toi? Donc, par exemple, écrire, t'occuper des animaux, voilà, essayer de, comme ça, de les attirer vers, les aider à trouver un métier, ou d'abord un stage, qui les intéresse, et du coup, qu'ils puissent tomber, alors ça c'est notre objectif, on est en train de perfectionner un peu le site, qu'ils puissent tomber sur un stage qui les intéresse, les attirer donc vers un métier qui les intéresse, commencer comme ça pour que, effectivement, avec l'aide de leur maître de stage, qu'ils aient un chemin un peu plus sympa vers le travail.
Gaëlle Frillet, toujours sur cette question du bonheur au travail, finalement, qui est une proposition assez forte qu'on peut faire à des jeunes gens de 15 ans, 14-15 ans, en troisième. Et puis, sur le sens à donner à la scolarité, qui n'est pas seulement de trouver du travail, un travail, mais de trouver une manière d'être heureux dans la vie, peut-être. Enfin, je ne sais pas si vous en êtes là en tant qu'enseignant.
Moi, je vais parler en mon nom et en mon expérience donc de prof en REP pendant longtemps sur le travail. Il y a un problème parce qu'effectivement, ils n'ont pas d'idée de métier. Ils ne connaissent pas beaucoup de métiers. Ils ont peu d'imagination à ce niveau-là, mais c'est pas de leur faute, hein, bien au contraire. Et donc, nous, on aimerait pouvoir leur montrer d'autres choses. Ce qui se fait dans certains établissements à l'initiative de chefs d'établissement, c'est par exemple d'inviter des sortes de tables rondes ou des choses comme ça, où pareil, on demande aux élèves quels sont leurs domaines d'intérêt, leur domaine d'intérêt, et ils vont rencontrer des professionnels qui seront invités lors d'une journée à échanger, à poser des questions, et ça, ça marche très bien, et ça a été un super résultat, vraiment. Une rencontre humaine, c'est toujours, moi je pense que c'est comme ça que ça marche, on parle de son expérience. Après, nous on est des profs et on est des adultes, et face aux élèves, ils nous voient prof avec notre petit salaire,
oui,
comme ils disent. Ils nous voient prof avec notre petit salaire. On fait pas envie de quoi elle va parler. Elle est planquée. Elle est fonctionnaire. Elle a son salaire. En plus, c'est pas très bien. Elle fait des études et finalement, elle vient nous voir nous tous les jours. Pourquoi je vais l'écouter? Qu'est-ce qu'elle en sait? Elle est pas dans ma tête. Et les rêves qu'elle a, c'est certainement pas les mêmes que les miens. Donc c'est sûr que là, pour le coup, je pense que pour la plupart des élèves, c'est pas à l'école qu'ils pensent trouver des réponses ou avoir des personnes à même d'entendre leurs rêves s'ils en ont. Ensuite, sur l'épanouissement, le plaisir, il y a quand même des profs qui sont heureux dans leur métier.
Mais oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Alors c'est un métier, c'est celui qu'on a choisi, mais moi, en tout cas, je le transmets. Je suis heureuse d'être là et je suis contente de faire ça avec vous et on fait plein de choses ensemble. Et ça, je pense qu'ils le perçoivent et que donc le travail, ça peut être plaisant. Et je me surprends déjà à leur avoir déjà dit. Et je pense, enfin, l'éducation nationale, il y a énormément de monde, il y a énormément de profs, on est tous différents. Et je pense malheureusement qu'il y a beaucoup de profs qui n'ont pas cette mission-là à cœur. C'est vrai.
D'offrir une vision possiblement
optimiste,
positive,
ouais.
Possiblement,
ouais.
Du travail.
Ouais, parce qu'ils sont cantonnés dans l'instruction, leur matière, le passage dans la classe supérieure, avec des jugements très définitifs et arrêtés sur les capacités d'élèves ou sur les ambitions des élèves. Et ça, je le vois au quotidien à chaque conseil de classe, et ça me mine.
Eh bien, ce sera la conclusion. Elle est un petit peu pessimiste, mais ce n'est pas la note finalement de cette émission sur les stages de troisième. Viens voir mon taf, c'est une association donc qui existe, qui a un site avec une très belle plaquette, des vidéos d'élèves qui témoignent, et puis encore des propositions de stages qu'on peut vous envoyer.
Et si vous avez une offre à poster, voilà. N'hésitez pas à le faire.
Vous faites votre publicité sur le service public quant à un rapprochement école entre Prise Benjamin Marteau, nous aurons l'occasion d'en reparler. Rue des Écoles s'achève, mais vous pouvez nous retrouver en podcast et autres balado-diffusion sur franceculture.fr et bien sûr dimanche prochain à 17h15